Mission spéciale sur RFI.
Appel sur l'actualité est à Bamako. Juan Gomez.
De retour dans la capitale malienne à l'occasion du forum de Bamako avec ce matin pour dialoguer avec vous deux responsables de mission de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. Mahamat Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la MINUSMA, la mission des Nations Unies ici au Mali. Moudjid Djinadou également à mes côtés, directeur des affaires politiques de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. On s'interroge évidemment sur le rôle des casque bleu déployé sur le continent africain, je vous le disais tout à l'heure, 80 000 soldats de la paix qui participent en ce moment même à ces différentes opérations déployées dans 7 pays. Quelle est l'efficacité de ces missions de maintien de la paix? Quelle est, messieurs, votre marge de manœuvre? De quel pouvoir disposez-vous pour justement rétablir la paix, maintenir la paix dans vos pays respectifs? On en parle avec les auditeurs de RFI. On évoquait juste avant le journal, Mahamat Saleh Anadif, le rôle de la mission des Nations Unies au Mali avec l'armée malienne. Je voudrais qu'on dise deux mots tout de même concernant la coopération, la collaboration entre la MINUSCO en République démocratique du Congo et les FARDC, les forces armées congolaises. Là aussi, on a l'impression qu'il y a une certaine incompréhension entre les deux.
Non, s'il y a une incompréhension, elle est certainement pas voulue. C'est peut-être dans le feu de l'action qu'il y a des incompréhensions de temps en temps. Mais je veux plutôt vous donner l'exemple concret de, je crois que c'était au mois de novembre, lorsque la frustration des populations était à son comble. Le président Tshisekedi a souhaité que Madame Leyla Zerougui assiste personnellement à une réunion du Conseil national de défense et de sécurité. Et à cette réunion, il a instruit tous les généraux de l'armée à collaborer de façon stricte et régulière avec la MONUSCO.
Alors ça, ce sont les paroles. Dans les faits, dans les actes, est-ce que ça se concrétise? On dit que les FARDC mènent en ce moment, et depuis quelques mois déjà, des opérations dans la région de Beni, mais sans forcément impliquer les casques bleus.
Il y a des nuances. Lorsque les casques bleus de la MONUSCO ne sont pas impliqués dans la préparation, c'est difficile pour les militaires d'aller en opération. Comme a dit le représentant spécial pour la MINUSMA, c'est la MONUSCO qui s'occupe des évacuations médicales, par exemple, qui assure les arrières lorsque les FARDC sont en opération. Il faut que ce soit conjointement planifié.
Donc vous êtes là plus en logistique, si je comprends bien.
Vous savez,
vous participez vraiment au combat.
Alors, si on veut parler de Beni, vous savez, à Beni, il y a une force spéciale. C'est-à-dire, c'est une brigade d'intervention qui fait partie de la MONUSCO, mais qui a été créée de façon un peu distincte. Cette force spéciale a la capacité et le mandat de prendre des initiatives. Mais il est important pour les éditeurs de comprendre une chose. Nous n'évoluons pas dans des pays qui ont c'était pas des États en faillite. C'est des États qui ont tous les attributs de la souveraineté. Et donc, on ne peut pas faire d'opération complètement de notre initiative. Ce serait violer la souveraineté de l'État.
Évidemment.
Il y a ces nuances-là qu'il faut respecter.
Et c'était bien de le préciser, effectivement. On repasse au standard avec Abdelkerim, qui est à N'Djamena, au Tchad. Bonjour Abdelkerim.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Pourquoi les casques bleus sont-ils composés de soldats originaires des pays en voie de développement?
Ah, question sur la composition des contingents. Là aussi, c'est souvent revenu au standard et j'ai sous les yeux, par exemple, le commentaire de Jeanne d'Arc sur Facebook. Cette auditrice nous dit « La faiblesse de l'ONU, c'est qu'elle ne dispose pas de sa propre armée et quand bien même, qui accepterait de mourir pour un pays qui n'est pas le sien ? Un Bangladais, un Pakistanais accepterait de mourir pour le Mali, Mahamat Saleh Anadif ?»
Je voudrais dire à cet auditeur qu'il n'y a pas que de soldats des pays en voie de développement. Si je prends le cas de la MINUSMA, c'est vrai que 9 000 sont du continent africain. Mais il y a 400 qui sont de l'Allemagne, il y a près de 200 qui sont des Pays-Bas, il y a 400 qui sont de la Chine, il y a une bonne partie, une centaine ou même plus, de la Suède. C'est pour lui dire, je n'ai pas parlé du Bangladesh, je n'ai pas parlé des autres pays d'Asie, mais je vais lui dire que les missions de paix ont changé et qu'aujourd'hui, il y a même des pays développés qui sont déployés dans les missions de paix.
J'ai cité à juste titre le Bangladesh et le Pakistan qui sont tout de même les plus gros contributeurs des troupes sur le continent africain. Concernant la République démocratique du Congo, la MONUSCO, Moudjid Djinadou.
Oui, sans doute au niveau de la MONUSCO, on a moins de troupes occidentales, je dirais. Il y a beaucoup de troupes asiatiques. Mais il faut aussi dire à l'auditeur que il y a certains pays, Bangladesh, vous avez cité Pakistan, Inde, qui ont développé au fil des ans une véritable expertise en matière de maintien de la paix. Alors, lorsqu'il faut agir sur le terrain, autant aller vers ces troupes contributrices qui ont la capacité de le faire pour être efficaces sur le terrain. Et puis, dernière chose pour l'auditeur, vous avez dit tout à l'heure vous-même, Juan, qu'il y a 7 opérations qui se déroulent sur le continent.
Oui.
L'Afrique a souhaité de plus en plus avoir des solutions africaines aux problèmes africains. Donc, c'est tout à fait normal que des troupes africaines volent au secours de leurs frères.
Alors, on poursuit la réflexion avec Thibaut, qui, lui, nous appelle de Bangui, en Centrafrique. Bonjour Thibaut, bienvenue.
Bonjour Juan, bonjour et merci beaucoup. Ouais, Juan, je voulais parler par rapport... à la réaction de la MINUSCA sur le terrain, ses actions sur le terrain par rapport aux prochaines élections qui auront lieu en République centrafricaine. Parce qu'on s'est rendu compte que les activités menées par la MINUSCA sur le terrain sont totalement limitées. Là où sévit les groupes armés, on a constaté que les violences continuent toujours et ça va compromettre un peu la participation des électeurs aux élections. Et même pour... Les candidats aux différentes élections législatives et présidentielles. Donc il faut renforcer la position de la MINUSCA, redéployer beaucoup d'éléments dans les zones en conflit, dans les zones reculées, pour assurer une bonne marche des élections.
Ouais, c'est vrai que comme en 2015, la MINUSCA sera chargée de veiller au bon déroulement, au bon fonctionnement tout du moins, des élections qui doivent se dérouler en décembre dans votre pays. En République démocratique du Congo, Mujib Jinadou, les casques bleus, la mission des Nations Unies a accompagné à plusieurs reprises l'organisation des élections.
Oui, avec la nuance que les dernières élections de décembre 2018, le mandat était beaucoup plus strict. Comme je vous dis, en 2006, les élections pratiquement été organisé par les Nations Unies. En 2011, c'était 50-50, si je puis dire. En 2018, le gouvernement congolais a souhaité organiser ces élections de façon exclusive.
Ouais, c'est vrai que les relations étaient un peu plus compliquées lors des dernières élections.
On peut dire ça comme ça. Mais le mandat de la MINUSCA à ce moment-là était définitivement pas un mandat d'observation, de certification des élections, parce que c'est ça qui crée la confusion. C'était surtout un mandat d'accompagnement logistique sur demande, à la demande du gouvernement. Le gouvernement n'a pas demandé, donc on n'a pas donné d'appui logistique.
Logistique, ça veut dire quoi concrètement? Mettre à la disposition des avions,
notamment
des camions pour transporter le matériel électoral.
Exactement, c'est exactement ça. C'est même presque exclusivement ça. Et la MINUSCA avait d'ailleurs 80 millions de dollars pour ça. Le gouvernement n'a pas demandé, donc il ne s'est rien passé. On a fait du monitoring des droits de l'homme et les bons offices de la représentante spéciale. C'est essentiellement ce qu'on a fait. Lorsqu'il y a eu beaucoup de controverses au moment des résultats, les gens se sont tournés vers la MINUSCA, mais ce n'était pas le mandat de la MINUSCA de constater ce qui s'était passé et d'observer ou de faire des réflexions par rapport à ça.
Allez, on repasse au standard avec Gabin qui est au Bénin. Bonjour Gabin.
Bonjour Johan.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Merci bien. Il a été rapporté plusieurs cas présumés de viols commis par les quatre pays, notamment en Centrafrique et en République démocratique du Congo. Alors, comment l'ONU enquête sur ces cas? Et quelles sont les sanctions prévues?
Alors, le réseau de téléphone n'est pas très bon avec le Bénin, mais on a compris effectivement que vous souhaitiez pointer du doigt ces affaires de violences sexuelles commises. Vous citiez la Centrafrique, vous avez également cité la République démocratique du Congo. On n'a pas de représentant de la MINUSCA autour de la table. On a un représentant de la MONUSCA qui, effectivement, a été secoué, mais c'était il y a quelques années, par des scandales de viol, il me semble.
Voilà. Donc, alors, il parle sans doute de la MONUC. Et pas de la MINUSCA. La MINUSCA s'est transformée en MINUSCA il y a 10 ans, en 2010. Et c'est vrai qu'au début des années 2000, il y a eu des scandales d'agression sexuelle qui ont été, sanctionnés. Mais ce qui est le plus important, c'est que la politique de tolérance zéro du secrétariat général a porté ses fruits en ce qui concerne la RDC de toutes les façons. Je ne suis pas sûr, il peut toujours y avoir des cas isolés, mais je ne suis même pas sûr qu'on a pu en documenter les deux dernières années. Je ne suis pas sûr du tout. C'est carrément le jour et la nuit par rapport à ce qui se passait il y a 15-20 ans.
Oui, Mahamat Saleh Anadif, tolérance zéro prônée depuis quelques années contre les casques bleus soupçonnés de violences sexuelles. Ça veut dire quoi? Que les sanctions, elles sont désormais immédiates?
Au-delà même des sanctions, nous ne visons pas uniquement les sanctions, nous visons à ce qu'il n'y ait même pas des cas de viol ou d'abus ou d'exploitation sexuelle. Nous essayons autant que possible, ça arrive, nous l'atteignons pratiquement dans la plupart des cas. Un ou deux cas s'ils se sont faufilés, mais en tout cas je sais qu'au niveau de l'aménagement depuis les 3-4 dernières années, il n'y en a même pas eu cela. au cas où il y a eu, c'est vrai que l'une des lacunes, personnellement, moi, que j'ai noté, c'est qu'on renvoie les éléments au niveau de leur pays et c'est leur pays qui doivent les juger. Ça, pour moi, ça aurait été... J'essaierais plus à l'aise si on les jugeait autrement.
D'accord. Et pas dans leur pays d'origine,
même
effectivement.
Si pour le moment, je me dis qu'au niveau de l'amunissement, nous ne souffrons pas de cela.
Autre sujet que les auditeurs souhaitent évoquer avec Samy. Bonjour.
Bonjour, John Gomez. Je ne sais pas si je peux déjà poser ma question par rapport à la thématique qui a été lancée.
Eh bien, allez-y, on vous écoute avec nos invités. Vous êtes à Bukavu, en République démocratique du Congo. Allez-y.
Je voulais juste savoir comment se fait-il que les uniformes de la MONUSCO soient souvent portés par certains rebelles des ADF à Beni.
Ah, question très précise. Des uniformes, des casques bleus portés parfois par des rebelles ADF, un faux ou un tox concrètement, Mujid Djinadou?
Oui, l'auditeur, c'est pas lui qui initie l'intox, mais il véhicule l'intox. Ouais. Ça ne s'est jamais passé. Il y a eu des cas où les ADF ou d'autres groupes armés se retrouvent avec des vêtements militaires. Ce n'est définitivement pas des uniformes de la MONUSCO.
Quel est l'intérêt de véhiculer de telles rumeurs? On a même vu parfois des images circuler sur les réseaux sociaux. Qui se cache derrière et dans quel intérêt selon vous?
Vous savez, l'insécurité à l'est de la RDC est causée par plusieurs facteurs. Il y a sans doute des facteurs mercantiles, et il y a des facteurs géopolitiques sans doute, mais il y a un intérêt à ce que la situation reste telle qu'elle. La MONUSCO est donc un bouclier par rapport à ça, et donc il y a peut-être un intérêt de ceux qui ont intérêt à voir l'insécurité se perpétuer à diaboliser la mission. Nous sommes dans une situation où on comprend que la frustration et l'indignation facilitent, si on veut, le transport de ces informations qui ne sont pas réelles. Nous essayons de comprendre ça et aussi de mieux communiquer sur cette question.
Il faut effectivement communiquer puisqu'on a eu plusieurs commentaires sur ces rumeurs qui circulent. Mahamat Saleh Nadif.
Non, juste je voudrais ajouter un petit élément. Je crois que, je l'ai avais dit tout à l'heure, il y a ceux qui veulent la paix et il y a les ennemis de la paix. Ces gens-là, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme moyen de communication, ils intoxiquent tout le monde. Il est intérêt que les frères africains prennent garde de ça. Je vous donne un exemple. J'étais à Gao et il y a eu un véhicule qu'on a peint en blanc comme les Nations Unies, qu'on a mis d'immatriculation avec les signes de UN et qui a été rempli d'explosifs et qui est parti exploser, tuant des casques bleus. Je vais interroger les populations de Gao. J'ai dit comment comprendre que dans une ville comme celle-là, qu'il y ait un garage, qu'on puisse mettre un véhicule, qu'on le peint en blanc, qu'on lui mette des sigles des Nations Unies, qu'il traverse toute la ville et qu'aucun citoyen ne puisse alerter les services de sécurité, les services de renseignement, moins encore l'amunissement. Donc c'est pour dire que les ennemis de la paix sont dans nous, sont parmi nous, sont avec nous. Et je demande tout simplement aux frères où il y a une présence étrangère, d'être vigilants et d'être plutôt du côté de ceux qui veulent les aider à amener la paix que d'écouter les intox des ennemis de la paix.
Bruno a des questions à vous poser. Bonjour Bruno.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Merci de nous appeler de Kinshasa, nous vous écoutons.
Oui Juan, en fait l'ONU est très présente en Afrique avec ses missions de la paix. Mais le continent est toujours mal représenté à l'ONU. Alors, qu'est-ce qui explique qu'en 2020, l'ONU décide encore pour l'Afrique et que le continent n'a toujours pas le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU?
Ah, bonne question. Je ne sais pas si nos invités ont de quoi vous répondre, mais c'est vrai qu'avec 54 États membres, l'Afrique est le continent qui compte le plus grand nombre d'adhérents, l'Afrique qui s'estime marginalisée, qui ne veut plus se contenter des 3 sièges de membres non permanents qu'elle dispose. Elle veut désormais 2 sièges permanents avec droit de veto, comme pour la France, les États-Unis, la Chine, la Russie. Mahamat Saleh Nadif, cette requête, elle est compréhensive aujourd'hui. Il faut que ça change. Il y a nécessité à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU.
Non pas que je la trouve juste, mais je la soutiens. Je l'avais soutenue dans le passé. C'est une revendication juste d'ailleurs de l'Union africaine, mais pas seulement des pays africains. Elle est une revendication aujourd'hui d'un pays comme le Japon, elle est une revendication de l'Inde, elle est une revendication du Brésil, elle est une revendication de l'Allemagne. N'oublions pas que le Conseil de sécurité actuel est le résultat des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, s'il y a un seul point sur lequel les cinq permanents sont d'accord, c'est d'appuyer leur veto pour empêcher qu'il n'y ait élargissement de ce Conseil. C'est une bataille. Nous avons dit, aujourd'hui, vous dites, presque 70% des problèmes qui se discutent au niveau du Conseil de sécurité concernent l'Afrique. L'Afrique est absente.
Oui. Justement, il y a Amadou qui nous appelle de Côte d'Ivoire, qui souhaite prolonger la réflexion sur la place de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Bonjour Amadou.
Bonjour Monsieur Wan.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Moi je vais, il faut m'excuser, je vais manger avec la même bouche comme on le dit en Afrique. Au lieu de demander des places au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, moi, je propose plutôt que de façon unanime, en s'élevant comme un seul homme, l'Afrique boycotte tout ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies appelée l'ONU. Mmh. Vous comprenez? Parce que moi, je dis qu'on ne peut pas accepter que sur la base des principes qui ont été établis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde puisse marcher jusqu'à présent. Ce n'est plus possible. La géopolitique a évolué, il faut donc prendre en compte les réalités du moment et accepter que d'autres pays, comme les pays africains, accèdent au même niveau que les autres pays qui détiennent le droit de veto.
Ouais, donc vous dites ça suffit, il faut mettre fin à cette réalité qui est que les grandes puissances décident à la place de l'Afrique. Et il nous reste un petit instant avant de terminer cette émission. Je voudrais qu'on parle de l'avenir des différentes missions des Nations Unies déployées sur le continent africain. On a entendu Donald Trump, le président américain, qualifier l'ONU d'organisation budgétivore. Le président américain souhaite réduire le nombre de casques bleus en supprimant des missions obsolète et inefficace, a-t-il dit. Qu'avez-vous envie de répondre au président américain Mahamat Saleh Anadif?
Non, moi je n'aimerais pas répondre au président américain, mais par contre, je voudrais dire à tous les auditeurs que je viens d'écouter qu'il y a une question ou deux questions qui me préoccupent et qui n'ont pas été posées. Il faut se poser pourquoi on envoie des casques bleus en Afrique. Il faut que les Africains apprennent à résoudre les causes des conflits en Afrique. C'est la seule façon de ne pas avoir des casques bleus en Afrique.
Mujib Jinadou, le mot de la fin en ce qui vous concerne.
L'ONU, d'une certaine façon, l'organisation a un peu vocation à être ce que les anglo-saxons appellent « soft target », une cible facile. Parce que le concept de paix et de sécurité internationale, c'est un idéal. Mmh. On court tous, dirait ça. Donc c'est très difficile de mettre la main dessus et de décider que nous avons atteint la paix et la sécurité. Ce que je peux dire, en revanche, pas pour défendre l'ONU, mais bon, je dois défendre l'ONU parce que je travaille pour la Nations Unies, c'est que moi, un peu plus de 20 ans au service des Nations Unies, j'ai pu constater qu'il y a une volonté de s'améliorer. Si vous voyez les opérations et la manière dont nous travaillons il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doctrine, mais de façon empirique, l'ONU fait des efforts pour ajuster. Et ça, c'est continu. Aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a des déficits de communication, etc. Vous verrez que dans les années qui viennent, tout ça sera résorbé. On aura d'autres problèmes qui viendront. Mmh. Il n'y aura jamais de satisfaction à 100%, mais le travail est en train d'être fait.
Et le débat est loin d'être clos. Merci infiniment à tous les deux. Mahamat Saleh Anadif, oui.
Non, quand même, il faut donner raison au secrétaire général des Nations Unies. Depuis qu'il est arrivé à la tête de l'ONU, il a initié deux choses. Il y a ce qu'on appelle « Action for Peacekeeping », qui est une action pour le maintien de la paix, où il est en train de voir comment rendre les opérations de maintien de la paix plus efficaces. C'est une opération qui est là, qui est en marche, et qui a commencé à donner des solutions.
Donc il y a une remise en cause quand même, en interne, pour essayer de voir comment on s'améliore.
Puisque les casques bleus, comme je l'ai dit, quand ils ont été créés, ils ne sont pas créés pour être déployés dans des environnements qui sont comme l'environnement actuel.
Et on aura l'occasion évidemment d'en redébattre et d'en reparler avec les auditeurs de RFI. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Lundi, nous serons toujours à Bamako pour un débat enregistré en public à la Faculté des sciences économiques et de gestion. Avec les étudiants, nous dresserons un état des lieux de la situation sécuritaire au Mali. Ce sera donc à suivre lundi dès 8h10, temps universel. Merci à toute l'équipe qui m'a permis la réalisation, la présentation de cette émission à Bamako. Jessica Taïeb, Richard Fono à Paris, Laurent Philippot, Claude Battista, Quentin Ferral, Anna Kerotret, merci évidemment aux réseaux sociaux, Alexandra Rivière, Fouque Foller. À suivre, juste après le journal, Priorité Santé avec Caroline Paré. Bonne journée, excellente fin de semaine, à lundi.